Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Un mot sur ces deux conflits qui s'éternisent. Évidemment, l'Ukraine, on l'a vu, 2 ans de guerre et pas de lueur d'espoir, pas de cessez-le-feu. C'est un siège qui continue. Et également, la bande de Gaza, ça fait 4 mois et demi que l'armée israélienne, donc, mène des opérations, a instauré un régime d'état de siège. Et ce matin, je faisais le tour rapidement, entre autres dans le journal Le Monde. On dit que l'aide humanitaire n'atteint plus maintenant l'enclave, le nord de l'enclave, qui est complètement isolé. Destruction des réseaux d'assainissement, l'entassement des réfugiés dans le sud, des conditions déplorables, des problèmes d'alimentation, et sans compter les milliers de morts depuis le début de ce conflit. La seule nouvelle positive ce matin, et ça vient des deux côtés, autant du côté palestinien que du côté israélien, il y a un espoir de cesser le feu, toujours pour obtenir la libération d'otages, mais ça semble possible. Il y a un petit peu d'optimisme, mais c'est une courte parenthèse sur un conflit, donc, qui s'éternise. Ce matin, beaucoup de nouvelles autour de l'immigration et des réfugiés. Puis vous allez comprendre pourquoi. D'abord, Québec a décidé d'aller en Cour suprême pour exclure les demandeurs d'asile, les réfugiés, des garderies qui sont subventionnées. Il y a des jugements qui ont été rendus avant et qui disaient que Québec n'avait pas le droit de faire ça en vertu de la Charte, que c'était discriminatoire. Et le gouvernement a décidé d'aller jusqu'à la Cour suprême du Canada avec ce dossier. Je veux juste rappeler que ça a été initié par le gouvernement libéral à l'époque, en 2018, le gouvernement de Philippe Couillard. Et ce qu'on plaidait, c'est le nombre de places évidemment, qui répond pas à tous les besoins et qu'il faut comme faire un certain ordre puis donner des priorités. Et les règlements qui entourent les services de garde au Québec prévoient que tu as le droit à un service de garde si tu es ici, par exemple, pour venir travailler. Mais ça exclut les gens qui sont réfugiés. Ce qui fait qu'il y a des gens qui doivent se tourner vers des garderies privées. En principe, comme ça a été défait, on n'est pas supposé appliquer cette réglementation-là puis dire à quelqu'un, vous êtes en attente, vous avez un statut de réfugié, ben vous n'avez pas le droit d'aller dans un CPE puis vous n'avez pas le droit d'aller dans une garderie qui est subventionnée. Sauf que dans les faits, il y a beaucoup de réfugiés qui se font refuser. C'est pas clair. La directive n'a pas l'air d'être saisie par tout le monde. Donc, le gouvernement a décidé d'aller dans cette direction et d'aller demander à la Cour suprême de se prononcer en disant, on pense pas que c'est discriminatoire, puis on n'achète pas l'argumentaire des juges, par exemple, de la Cour d'appel. C'est assez particulier entre vous et moi, parce qu'on demande à des réfugiés de venir travailler, de quitter l'aide sociale, on leur demande d'apprendre le français, on leur demande un paquet de choses, puis on leur dit, pour vos enfants, là, ben vous pourrez pas avoir accès. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais il y a bien des Québécois de souche qui se retrouvent dans la même situation parce qu'il y a un manque de place dans les garderies. Je comprends, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit exclure de facto les gens qui entrent ici et qui demandent le statut de réfugié? C'est la vraie question, je pense, qu'on doit poser. L'autre élément, tout le débat sur les réfugiés. Je regardais encore ce matin, là, Journal de Montréal, difficile d'apprendre le français, des enseignants dénoncent le manque de services pour intégrer des élèves allophones à l'extérieur de Montréal. Des employeurs qui perdent des gens qui, après 3 ans, n'ont pas une connaissance suffisante du français parce que apprendre la langue, travailler, c'est beaucoup de pression. Puis ils vont aller travailler ailleurs, des gens qui décident de quitter pour une autre province. Et cette réalité de l'immigration et des demandeurs d'asile politique, si on veut, ça frappe l'ensemble des pays. Et on va se le dire franchement, le gouvernement canadien depuis l'élection de M. Trudeau, a décidé d'ouvrir grand les bras, ce qui est très louable, mais ça ne tient pas compte de cette capacité d'accueillir. Et je me souviens du discours de la CAQ à l'époque, c'était « on va en recevoir moins et mieux ». Et là, on se retrouve avec un surplus, c'est disproportionné par rapport à la population du Québec, et ça se décline dans l'ensemble des services gouvernementaux, santé, éducation et garderie. Le président Biden aux États-Unis est en train de concocter des mesures pour stopper l'arrivée d'immigrants illégaux, notamment du côté du Texas, donc du sud des États-Unis, des gens qui arrivent de l'ensemble des pays. Toutes sortes de mesures qui sont envisagées. Et par exemple, on pourrait retourner sur le champ les gens de l'autre côté en disant « on prend pas votre demande ». Alors qu'actuellement, vous mettez le pied, même illégalement, en sol américain, puis vous restez là, puis on va évaluer votre dossier. Donc, on pourrait comme fermer la frontière à ce type d'immigration. Je voyais des images. On est en Europe et sur le bord de la frontière entre la Serbie et le nord de la Macédoine, il y a des réfugiés qui tentent d'entrer en Serbie, qui sont refoulés. Et non seulement ils sont refoulés, on les force à se déshabiller. Ils se promènent en sous-vêtements, température qui n'est pas très agréable, vous en conviendrez, et on les repousse. Et partout dans le monde, vous avez cette réalité de mouvement de population extrêmement important. Et le Québec et le Canada affichent jusqu'ici des politiques de grande ouverture. Mais là, il y a une limite à ce qu'on peut quand même faire pour accueillir des gens. Puis c'est devenu trop facile, là. Notamment des gens qui, par exemple, arrivent du Mexique à l'aéroport Montréal-Trudeau. Puis là, ils disent, ben, savez-vous, nous autres, on veut demander le statut d'asile pour toutes sortes de raisons. C'est pas que c'est pas valable, mais est-ce qu'on peut accueillir autant de gens alors qu'on a une réalité économique, humanitaire, extrêmement différente? Puis je répète, j'aime pas quand la CAQ et les ministres de la CAQ font cette association, menacent l'identité québécoise avec des immigrants puis des réfugiés. La CAQ, sur les questions d'immigration, ils l'ont pas. Puis ils glissent souvent, puis c'est toujours une question de perception. Ça commence par « nous sommes ouverts, puis on n'est pas d'extrême droite, mais on comprend la volonté de mieux contrôler puis de se faire rembourser par le fédéral les dépenses. » Mais de faire cette association un peu bête, là, de dire crise d'identité, nous sommes menacés par qui? Par l'autre. Je trouve ça, disons, assez dangereux pour le climat social. Bon, on reste un peu sur le même genre de sujet. C'est Radio-Canada qui nous rapporte que des travailleurs agricoles du Guatemala qui viennent au Québec, puis ils sont nombreux, là, je pense qu'il y en a 13 000 maintenant, œuvrés sur les fermes, ben, un certain nombre d'entre eux se servent des producteurs québécois, se servent des démarches faites par les producteurs d'ici pour débarquer au Québec et se pousser vers les États-Unis. C'est donc une plaque tournante pour un certain nombre d'individus. Selon les informations de Radio-Canada, ce sont des réseaux organisés qui profitent de ce programme pour les travailleurs agricoles et qui font payer le gros prix à des gens du Guatemala à coups de milliers de dollars pour dire « on vous arrange un passage au Québec, vous travaillez un peu sur la ferme, puis dès que vous avez une opportunité, on vous fait passer du côté américain. » Et donc, c'est surtout vrai pour les producteurs qui sont près de la frontière. On peut penser à la Beauce, on peut penser à la Montérégie. Et il y a donc un certain nombre de cas qui sont documentés. Et on l'avait vu dans une autre émission enquête, là, sur le fait qu'on exploite vraiment ces gens-là, puis on leur fait miroiter toutes sortes d'avantages possibles. Or, on sait que les cartels puis des gens du crime organisé mexicain sont derrière ces opérations de déplacement de population. La grande question depuis hier, est-ce que les infirmières, les préposés qui travaillent actuellement en agence vont retourner vers les hôpitaux? C'est le défi du gouvernement. Il y a une entente avec la CSN. Je rappelle qu'avec la FIC, il n'y aura pas d'entente. On a vérifié hier. Puis là, la FIC ne veut pas jaser. C'est le code silence. Mais là, c'est le déploiement d'une grande opération séduction pour dire, toi, l'infirmière qui travaille dans une agence, viens-t'en à Maisonneuve-Rosemont, viens-t'en au CHUM, viens travailler dans le réseau de la santé, fais un retour dans le secteur public, on va reconnaître l'ancienneté, puis tu vas avoir des conditions salariales intéressantes. Parce qu'en même temps, Québec a décidé de se sevrer des agences. C'est pas scientifique mon affaire, mais j'ai reçu beaucoup de messages d'employés, d'agences qui disent ils ont absolument rien compris. C'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de qualité de vie, c'est une question d'horaire de travail, et on fait des choix. Puis t'as beau être payé au privé, t'as pas les mêmes avantages, mais pour beaucoup de gens, ça les dérange pas. Alors, je voyais ce reportage hier à Radio-Canada, puis là, tout le monde des ressources humaines, dans les CIS, puis les CIUS qui sont là, puis là, on va recruter, puis on va recruter. On se le souhaite, là. On veut que le service public soit fonctionnel, puis qu'on arrête de se tourner vers des agences. Mais je suis pas certain que ça va fonctionner aussi rapidement que ça. Que la transition, là, c'est comme si tout le monde va dire, parfait, on débarque des agences et on s'en va vers les hôpitaux. Puis vous regarderez au Nouveau-Brunswick, parce que les agences, il y en a qui ont abusé pendant la pandémie là sur les taux horaires alors qu'on était en crise. Il y a du monde dans ce milieu-là qui sont des vautours et des rapaces. Pas toutes les agences, mais il y en a. Au Nouveau-Brunswick, là, ils sont prêts qu'à un scandale. Le secteur francophone, donc l'agence, si on veut, qui chapeaute les services de santé pour les francophones du Nouveau-Brunswick, ils ont fait des ententes avec une agence. Ça peut grimper jusqu'à 300$ de l'heure. Rendez-vous compte, 5-6 fois le taux horaire. Et là, le gouvernement est en train d'enquêter là-dessus. Alors, un dossier qui est à suivre. Parlons de Northvolt. On a vu encore hier le gouvernement du Québec essayer de patauger là-dedans, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Ben, d'un côté, il y avait des règles puis des avis qui ont été donnés pour refuser un projet résidentiel. Et la même spécialiste qui disait « Non, non, il faut protéger les milieux humides » a mis de côté cet argumentaire et a autorisé, ou en tout cas donné le feu vert pour l'implantation d'une usine. Le ministre Pierre Fitzgibbon a dit « L'immobilier, du résidentiel, c'est une affaire, puis une usine, c'est une autre affaire. » Sauf que c'est toujours une question de perception. Et ce qui est, je dirais, un constat assez clair, c'est que le ministre de l'Environnement a l'air d'un poids-plume à côté du ministre de l'Économie. Et je le sais que, quand j'ai parlé avec M. Fitzgibbon cette semaine, il n'était pas tout à fait d'accord, mais l'image que ça donne, là, c'est qu'il est le tout-puissant ministre de l'Économie, que Québec veut des usines de cette nature, donc filière batterie, puis tassez-vous du chemin. Et le ministre Benoît Charette, il fait pas le poids dans ce système-là. Et je dis pas, là, puis là, je le sais, depuis des semaines, on entend le même discours. On n'est pas contre l'usine, on est contre le gouvernement, sa façon de faire, sa manque de transparence. On a l'impression que ça magouille, qu'ils veulent nous rentrer ça dans la gorge, mais on n'est pas contre le projet. J'ai pas vu de sondage, là, sur l'opinion des Québécois. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec l'usine? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec la façon de faire du gouvernement? Mais c'est sûr que, en termes de stratégie politique, quand t'es obligé de sortir deux fois, que le PM sort, que le ministre de l'Économie sort pour dire « Hey, c'est un beau projet, là, faudrait pas l'échapper », c'est qu'ils sont assez conscients qu'en termes de gestion, de présentation du projet, ça va plus ou moins bien. Il y a Normand Laprise, on sait qu'il a été obligé de fermer des restaurants et de mettre à pied du personnel. On apprend ce matin dans le Journal de Montréal qu'il a accumulé des dettes, enfin lui, je parle de ses entreprises, là, 7,5 millions. Et on a donc fermé les brasseries de thé. Et le restaurant phare de son empire, si on veut, le fameux Toqué, demeure en opération. Mais là, ce sont les créanciers. Et ils sont nombreux. Là, je voyais la liste ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a une centaine de créanciers. Et là, c'est comment on va liquider les actifs. Et ça vient illustrer, évidemment, la crise dans le monde de la restauration. Il y a des prêts qui avaient été accordés, notamment par des gouvernements, par une banque aussi. Mais c'est sûr qu'on le voit, c'est dur la restauration en partant. Et là, c'est une faillite quand même majeure là de 7,5 millions. TVA, on est à quelques semaines de la vérité, c'est-à-dire que hier, présentation des chiffres. Et Pierre-Carl Péladeau l'a dit, on perd de l'argent à TVA, point à la ligne. Et donc, on est obligé de faire les mises à pied. Puis, je ferais remarquer que Péladeau a été celui qui a un peu donné le coup d'envoi à cette vague qui frappe l'ensemble des médias. Bell a encore fait des mises à pied. On voit la réalité financière de ce milieu, de cette industrie. Et s'il n'y a pas d'entente avec le syndicat, est-ce qu'il y aura une grève, est-ce qu'il y aura un lock-out, c'est quelque part dans quelques jours que ça va se décider. Mais c'est sûr que le paysage est en train de changer. Rapidement, quelques autres nouvelles. D'abord, en termes de chiffres, les milléniaux qui dépassent les baby boomers au Canada. Alors, c'est la première fois. Et c'est surtout à cause de l'immigration. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'enfants, c'est que les immigrants sont souvent des immigrants de la catégorie des milléniaux. Donc, ils sont nés entre 1981 et 1996. Alors là, ils dépassent actuellement dans la population canadienne les baby boomers qui ont été le poids, le groupe démographique le plus important pendant des années. Une étude également qui montre une hausse du nombre de suicides en prison au Québec durant la pandémie. Et aussi, ce matin, il y a une histoire dans le Journal de Montréal d'une résidence qui, dans une soirée à la résidence Ville-Marie, se sont retrouvés avec des températures de 48 degrés durant deux canicules. Écoute là. Et là, le propriétaire de la résidence en question dit que c'était pas pire qu'ailleurs au Québec et que le protocole a été respecté. Déplore le manque de transparence et de collaboration d'ICIUS. Quand je vous dis qu'il y a des entreprises qui abusent, qui mettent la main sur le portefeuille des vieux, c'est pas normal puis c'est pas acceptable que ce soit des fonds-fonds ou que ce soit une entreprise privée qui tolère ce genre de situation pour une clientèle, on va le répéter, vulnérable, qui n'est pas capable de se défendre. Et souvent, les proches arrivent à lever la main. Alors, donc, cette résidence Ville-Marie qui est pointée du doigt ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Depuis hier, on sait un peu plus ce que contiennent les ententes qui ont été conclues dans le domaine de la santé. Et notamment ce qui concerne la volonté très clairement exprimée du gouvernement d'aller prendre des infirmières, des préposés qui sont dans des agences et de les ramener vers les services publics, donc vers les hôpitaux. Est-ce qu'ils vont dire oui à ça? C'est la maudite bonne question ce matin. Deux invités pour en parler. Régent Leclerc, qui est le président de la Fédération de la santé et services sociaux à la CSN. Monsieur Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Et Patrice Lapointe, qui est le PDG de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec et aussi PDG de services progressifs. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour, monsieur Arquet.
Je commence avec vous, monsieur Leclerc, là, pour que ça soit bien clair pour les gens, là. Ça veut dire que avec cette entente, ça permet au gouvernement de dire, sur une base volontaire, à M. Leclerc, qui est préposé, j'ai besoin de vous dans tel hôpital, et je vais payer le déplacement et tout ça, et vous avez le droit de me dire oui ou non.
Exact. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce volet-là de déplacement, de reconnaissance d'ancienneté, parce que c'est ce qui a été question aussi dans l'actualité hier, fait partie d'une entente globale qui a été adoptée là, récemment par les membres. Ils ont considéré qu'il y avait suffisamment de matière parce qu'il y avait des primes. Tout ça s'inscrivait dans un... C'est une entente. Puis le volet sectoriel dont vous faites mention, oui, c'est effectivement des déplacements volontaires, alors que on se souvient du discours du gouvernement, très entêté de vouloir des déplacements obligatoires. Le gouvernement, dans sa vision, c'était une directive, vous allez dans tel hôpital que je vous dis, et point à la ligne. Fait qu'il fallu encadrer ça pour éviter un peu le Far West, là, parce que le matin, quand on arrive, on ne sait pas où on va travailler. C'est un peu
tannant. Non, ça, je comprends, mais je me souviens aussi du discours syndical qui était dit, ouais, mais là, je ne peux pas changer d'établissement, je ne serai pas formé si je travaille, je ne sais pas, moi, en chirurgie, puis on m'envoie à l'urgence. Donc, tout ça, là, c'est un peu c'est un chaud.
Ça demeure une réalité, parce que si quelqu'un qui est dans un département spécialisé, soins intensifs, chirurgie, urgence, puis on les déplace, exemple, en néonatalité, en soi, c'est une spécialité, la néonatalité. On ne peut pas déplacer les gens sans qu'il y ait un minimum d'intégration dans le département, d'une part. D'autre part, nous, ce qu'on visait, c'était d'améliorer les conditions de travail pour que les gens qui aient une stabilité. Oui, sporadiquement, on peut déplacer quelqu'un qui a un corps qui est inoccupé par une personne qui est en absence. Mais le but, c'était d'améliorer les conditions de travail pour que les gens trouve un sentiment d'appartenance, puisse rester dans le département, stabiliser l'équipe, puis les soins sont d'autant meilleurs. Plusieurs études le démontrent.
Vous avez parlé de l'ancienneté. Qu'est-ce qui va amener une infirmière qui nous écoute ce matin, qui travaille, par exemple, pour M. Lapointe, là, je vais lui parler dans deux instants, à quitter son poste dans une agence pour aller travailler dans un hôpital?
Ben, premièrement, ça s'adresse pas seulement aux infirmières, ça s'adresse
aux auxiliaires,
les agents de sécurité, etc. Premièrement, il y a un règlement qui a été adopté l'année dernière par le gouvernement qui dit 2024, Montréal, ses environs, 2025, on cesse les agences, 2026, Côte-Nord, Gaspésie. Tout ça, quand ça va s'appliquer, c'est qu'on doit travailler deux volets en même temps, c'est-à-dire d'appliquer le règlement éventuellement, mais en amont, d'améliorer les conditions. Puis dans ces conditions, un élément que le gouvernement cherchait à obtenir, c'était la reconnaissance d'ancienneté. Encore une fois, le gouvernement est entêté dans sa position. On a négocié, on s'est entendu, parce qu'on a intérêt à ce que des gens reviennent dans le réseau public.
Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qui va faire que quelqu'un d'infirmière préposée ou autre là, décide de quitter une agence pour aller vers l'hôpital?
C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La reconnaissance d'ancienneté à partir de mars 2020 fait que la personne revient pas dans le réseau à partir de zéro. Il y a également le salaire. Le salaire est augmenté de façon substantielle. Il y a des primes qui sont accordées dépendamment dans quel milieu vous travaillez. Puis souvent, c'est des milieux où les agences étaient sollicitées. L'urgence, les soins en CHSLD, tout ça, c'est des primes qui se sont rajoutées, qui ont été augmentées suite à la négociation. Il y a aussi des enjeux, que je vous dirais, d'autogestion d'horaire. Les gens vont pouvoir si des équipes sont stables, puis se connaissent, puis décident de gérer leur en fonction des besoins de l'employeur, gérer leur horaire, ben il y a une flexibilité que le gouvernement prétendait qu'on n'avait pas, alors que c'est complètement faux. On a réussi à s'entendre.
OK, monsieur Lapointe, avez-vous l'impression que les agences vont se vider puis que les hôpitaux vont être disons la nouvelle cible?
Essentiellement, nous, ce qu'on a trouvé très révélateur dans l'article hier, c'est un de voir à quel point le gouvernement ne comprend pas nos employés. Si nos employés voulaient de l'ancienneté, ils y seraient dans le réseau. C'est pas un secret de polichinelle qu'on cumule l'ancienneté quand on est dans le réseau. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Certains employés ne peuvent pas le réintégrer le réseau pour toutes sortes de raisons valables. Ces gens-là vont être perdus pour le réseau de la santé. Par ailleurs, ce qu'on a trouvé révélateur qui démontre ce qu'on dénonce depuis des mois, c'est de voir que derrière cette campagne de charme-là qu'on fait à nos employés, sur le plancher, ce qui se passe quand la personne dit non, hein, parce qu'une majorité de nos employés disent non, ben on tombe très, très rapidement dans le tordage de bras. Donc, c'est une campagne de tordage de bras de nos employés. Ils disent là, on t'a proposé un poste, t'as refusé, maintenant tu viens dans le bureau, puis t'as 48 heures pour te décider, sinon tu t'en vas chez vous. C'est comme ça que nos employés se sentent traités. Puis c'est pas acceptable, parce que ces gens-là, ils jouent un rôle essentiel, puis ça fait 50 ans qu'ils le jouent, ce rôle-là.
Mais là, il y a quand même une donnée qui s'ajoute. Le gouvernement dit, je veux me sevrer des agences, je veux avoir du personnel sous ma responsabilité, je veux plus faire affaire avec des gens comme vous, là. Je veux que ça soit des employés de l'État. C'est l'objectif du gouvernement. Ce que vous me dites ce matin, c'est que vos employés n'ont pas l'intention de suivre? C'est la perception que vous avez?
C'est le message qu'ils nous donnent. D'ailleurs, ce qui est très en vogue en ce moment dans les groupes d'infirmières puis de personnel d'agence, c'est comment travailler aux États-Unis, comment travailler en Ontario, comment se réorienter quand on a un diplôme d'infirmière ou de professionnel de la santé. C'est ça qui est en vogue en ce moment dans les discussions. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont être mal pris parce qu'économiquement, ils sont coincés. Mais ces gens-là, comme je vous dis, c'est pas une façon de les ramener dans le réseau. D'autant plus que ça par quoi ça se traduit?
Ça serait quoi la façon de les ramener dans le réseau?
ils sont déjà dans le réseau public. Ouais, mais... Ils n'ont juste pas le bon employeur selon le gouvernement. Là, ce qui se passe en ce moment, comme ils ont confirmé dans l'article de Radio-Canada hier, c'est qu'ils ont cessé de nous appeler depuis janvier. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cesser d'appeler nos entreprises? Ça veut dire l'hôpital de Rivière-Rouge qui ferme la nuit. Puis on dit à la population, tant pis, on pourrait appeler une agence, mais aller ailleurs. Ça veut dire l'hôpital de Lévis, l'urgence récemment, qui craquette partout parce que pendant le pic saisonnier, plutôt que d'ouvrir des lits sur les étages puis nous permettre d'intervenir ponctuellement, on dit non, on va laisser la première ligne s'étioler. C'est des personnes en soins à domicile qui attendent des soins, qui ne reçoivent pas, puis qui se butent à des boîtes vocales au CLSC quand ils appellent. Alors, quand ils nous appelaient, nous autres, ils parlaient à un être humain qui entendait leur détresse. C'est ça que ça signifie dans les faits. Et il n'y a aucune raison que nos entreprises ne puissent pas continuer de supporter le réseau de la santé au Québec comme on le fait depuis un demi-siècle.
Si l'État ne retient plus vos services, vos préposés, vos infirmiers, infirmières, ils vont travailler où?
Je veux dire, on est dans une posture où quand on a un diplôme dans le domaine de la santé, on a beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'international, que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit simplement de se réorienter. Les possibilités sont multiples. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire que s'il faut, ils vont aller faire un cours de coiffeuse parce qu'ils veulent pas y retourner. Il y a des gens qui ont été chaudés par le réseau. Il y a des gens qui sont dans une situation où on a une jeune mère de famille qui vient de se séparer. Elle peut pas y retourner pour les 10 prochaines années dans le réseau. Au moins, elle va rester dans le réseau public via nos entreprises. Puis dans 10 ans, quand sa situation va s'être stabilisée, il n'y a pas de problème. Ça a toujours été le cas. Ils ont toujours sollicité nos employés. C'est de le faire de façon aussi agressive en leur tordant le bras. Ça n'a pas de bon sens, puis ils ne méritent pas ça, nos employés.
Est-ce que c'est vrai, M. Leclerc, que ça tord des bras pour amener des gens à quasiment de force à intégrer le réseau?
Ben moi, j'ai déjà vu des employeurs tordre des bras pour garder du personnel en fin de corps en temps supplémentaire obligatoire. Fait que cette portion-là, j'en suis pas témoin. On me le rapporte pas de cette façon-là. Ceci dit, moi, j'amènerais aussi un élément qui va nuancer le contexte. Le contexte, c'est que, oui, il y a des gens qui sont passent par le biais d'une agence, mais c'est peu probable qu'un salaire de préposé aux bénéficiaires permette d'aller travailler aux États-Unis, d'une part. D'autre part, il y a... Il faut laisser l'entente qu'on vient de convenir, la convention qu'on vient de négocier, puis qu'on nous autoriser de signer, il faut la laisser s'appliquer. Là, on va voir s'il y a des vases communicants, quel effet que ça crée sur le personnel, mais il va falloir diffuser l'information. Quelles sont les nouvelles conditions de travail?
Parce que, vous dites franchement, je regarde puis c'est pas scientifique, là. Je reçois des messages d'infirmières, puis de préposés, puis de... Bon. Je pense pas que le gouvernement va être capable vraiment de se sevrer des agences. Je pense que si c'est ça l'objectif, ils vont couper dans les services, qu'il y aura pas assez de migration vers le public pour répondre aux besoins, que les agences, peut-être un mal nécessaire, mais ça va persister, vous pensez pas?
Ben, j'ai pu noter, peut-être en lisant en diagonale, j'ai noté que dans le règlement que... Ultimement, après les échéances, le ministre peut décider de poursuivre.
Mais je pense qu'il n'y aura pas le choix, moi.
Non, ça, c'est comme une soupape de sécurité. Mais en même temps, il faut avoir une vision à long terme. Si les délais qui sont prévus dans le règlement conviennent pour les régions, appliquons-les. Mais s'il y a des régions où ça demande plus d'efforts, nous, syndicalement, on veut contribuer à rapatrier le personnel dans le secteur public parce que ça coûte moins cher, de un. De deux, il faut le stabiliser, ce réseau-là, mais la pénurie s'applique partout. Fait que dans ce cadre-là, nous, dans notre négociation, c'était notre leitmotiv d'améliorer les conditions de travail pour que le monde soit rapatrié. Là, on va voir qu'est-ce que ça donne. À partir de là, il va y avoir d'autres discussions qui vont suivre sur les charges de travail, sur comment on peut stabiliser. Parce que les départs dans les agences, oui, c'est les horaires, mais beaucoup, c'était les quarts de travail.
Parce que j'ai l'impression que malgré l'ancienneté, je vais retrouver des quarts défavorables. Travailler le soir, la nuit, la fin de semaine.
Ça serait de mentir que penser que l'ancienneté seul va régler les problèmes. C'est ça, on en est conscient, mais c'était la volonté du gouvernement. C'est un discours public gouvernemental. Nous, on lui a expliqué que c'était multifactoriel. Il fallait qu'on ouvre davantage à améliorer les conditions.
Est-ce qu'il n'y a pas des agences qui ont été particulièrement gourmandes durant la pandémie, qui ont chargé la totale au gouvernement et ça donne mauvaise presse puis mauvaise image?
Absolument, M. Arcand. C'est malheureux, mais...
Je regarde au Nouveau-Brunswick, là, ils ont fait une entente. Le Globe and Mail rapporte ça ce matin avec le secteur francophone des soins de santé à du 300$ de l'heure. On n'a pas eu ça ici, là.
Il y a eu certains abus, j'en conviens, mais on a été les premiers à l'admettre et à le dénoncer. Vous savez, c'est pas parce que certaines entreprises ont un comportement délinquant et que nous, moi, là, j'ai pris tous les micros qui étaient disponibles depuis un an pour exprimer notre point de vue, dire, écoutez, il y a des problèmes, il faut encadrer notre industrie, il faut avoir une liste de partenaires accrédités qui sont sérieux, qui ont un historique de partenariat avec le réseau pour supporter un réseau public versus envoyer nos employés dans des cliniques privées où est-ce que c'est juste l'utilisateur payeur qui va être capable d'avoir des soins. Et nous, c'est ça qu'on demande au gouvernement. Qu'il y ait des entreprises qui aient abusé, ça met pas toutes nos entreprises au banc des accusés. Puis ça, on l'a reconnu, on l'a dénoncé. On le dénonce à toutes les semaines. Malheureusement, il n'y a pas d'ouverture pour parler avec
nous. OK, le temps file. Dernière question. Actuellement, comment ça se passe, la cohabitation entre une infirmière du public puis une infirmière d'agence ou un préposé d'agence? Ben, ça se passe bien? Ça se passe sous tension?
Ça dépend dans quel milieu on se retrouve. Parce que on s'en est parlé tout à l'heure. Dans un département spécialisé, les infirmières qui sont là depuis un temps suffisamment long pour être capables d'atteindre les habiletés, quand quelqu'un arrive de l'extérieur, c'est une surcharge de l'orienter. Parce que c'est vrai qu'une infirmière, à la base, est formé pour tout faire, mais il y a des spécialités. Ça, faut respecter ça, mais il y a aussi une espèce d'esprit d'équipe. Puis dans ce contexte-là, des fois, c'est une surcharge de travail pour les personnes qui sont présentes de réorienter la personne. Puis à cet égard-là, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on faut pas déplacer les problèmes, mais faut se concentrer sur le fait que le secteur public va à terme redevenir, récupérer son blason, parce que ultimement, c'est pas vrai que Santé Québec puis la centralisation puis la privatisation du réseau va améliorer à la clé le service à la population, surtout dans les coûts qu'on connaît, c'est-à-dire l'augmentation des coûts de la santé.
OK. La cohabitation se passe comment?
Bien, nos employés sur le terrain sont appréciés. Hein? Souvent, là, on va vivre des situations où est-ce que des gestionnaires vont appeler un propriétaire d'agence ou une équipe de liste de rappel, dire « Écoutez, on est à moins 10 ce matin, pouvez-vous venir nous aider? » Malheureusement, là, on va se buter depuis quelques mois. Une liste de rappel qui, elle, est dans le bureau, va dire « Je suis désolé, on n'a plus besoin de vous. » Alors que de l'autre côté, ça pleure presque au téléphone pour dire comment ça se fait que vos gens sont plus là. Donc, sur le plancher, il y a une cohabitation, mais il y a surtout une volonté de la part de notre industrie de travailler autant avec les syndicats que le gouvernement pour trouver des solutions gagnantes pour toute la population québécoise. Vous savez, avec le vieillissement de la population, on n'a pas les moyens de perdre une infirmière. Puis je comprends qu'un préposé ira peut-être pas aux États-Unis. L'infirmière a les moyens d'y aller, mais le préposé peut aller chez Costco, par exemple, ou il peut aller à bien d'autres endroits dans la société où il cherche des employés et de la main d'œuvre.
Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Régent Leclerc de la CSN et Patrice Lapointe qui représente les agences de placement d'infirmières, de préposés, bref, de personnel soignant.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Donc, on a appris hier que le gouvernement du Québec va s'adresser à la Cour suprême du Canada pour empêcher les enfants des réfugiés, des demandeurs d'asile, d'avoir accès aux garderies qui sont subventionnées. C'est un débat qui dure depuis quelques années, une politique qui avait été établie par le gouvernement de Philippe Couillard autour de 2018. Et la Cour d'appel a renversé cette décision en disant que ça violait des dispositions de la Charte. Donc, le gouvernement a dit, on n'a pas assez de ressources, c'est pas discriminatoire et on doit dire à ces demandeurs d'asile, ben, trouvez-vous une place ailleurs, mais pas dans les garderies subventionnées. J'en parle avec Guillaume Clich-Rivard, qui est le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est un avocat qui s'est spécialisé en matière d'immigration et qui s'occupe donc pour l'opposition de ces dossiers de famille et d'immigration. Monsieur Clich-Rivard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, merci de l'invitation.
D'abord, je veux bien comprendre, là. Un réfugié peut actuellement ou pas avoir accès à une garderie subventionnée?
Bon, on a la distinction entre réfugié et demandeur d'asile. Donc, celui qui attend son audience, celui qui attend la détermination de son statut, puis celui qui est qualifié. Celui qui est qualifié a accès. Celui qui n'est pas encore qualifié puis qui attend son audience n'a pas accès depuis la politique de 2018, comme vous le dites. Ensuite, il y a un jugement de la Cour supérieure qui est venu invalider la décision du gouvernement de 2018, puis la Cour d'appel fédérale l'a maintenu avec des dispositions un petit peu différentes, le fait que c'était interdit de leur interdire l'accès sur la base de la charte, vous l'avez bien dit, sur la base de la discrimination que ça fonde pour les femmes. Donc, pour l'instant, les demandeurs d'asile, en fait, jusqu'à la décision, jusqu'à la semaine, il y a deux semaines, n'avaient pas accès, et là, le jugement est exécutoire, ils ont accès, et le gouvernement aujourd'hui s'adresse à la Cour d'appel pour faire suspendre l'exécution du jugement et se rendre en Cour suprême pour le contester.
OK, mais là, que je comprenne bien, là, au terme de tout ça, là, demain après-midi, là, la semaine prochaine, ils ont accès ou pas?
Ils ont accès en ce moment. La seule chose qui leur donnerait pas accès, c'est si la Cour d'appel venait à accepter de suspendre l'exécution de son jugement, ce que la CAQ demande en ce moment, ce que le gouvernement demande.
OK, parfait. Ce que j'essaie de comprendre, puis là, on a un vaste débat depuis quelques jours, on le sait, là, sur les réfugiés, puis au-delà de la facture, au-delà de la crise humanitaire qui est invoquée par le gouvernement, là, ce que je vais essayer de comprendre avec vous ce matin, c'est la préoccupation de beaucoup d'auditeurs qui disent « Moi non plus, je suis pas capable de me trouver une garderie subventionnée. Je suis obligé de faire affaire avec une garderie non subventionnée. Le nombre de places est malheureusement limité. » Est-ce qu'il n'y a pas une réalité brutale pour un gouvernement de dire « Je peux pas garder les enfants de tout le monde. »
Il y a une réalité qui est claire, puis il y a un réseau qu'il faut compléter, puis moi je mets tous les efforts, puis on travaille en immense collaboration avec la ministre pour compléter notre réseau. Sur le nombre de demandeurs d'asile, moi j'ai dit qu'il fallait qu'on ait une entente avec le fédéral pour les autres provinces pour réduire le nombre. Il faut qu'on ait un partage équitable. Le Québec en fait plus que son rôle, puis son poids démographique. Ça, c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, on peut pas d'un côté dire que ces gens-là sont un fardeau, mais leur bloquer la francisation, ne pas leur émettre de permis de travail avant plusieurs mois, leur bloquer l'accès aux garderies, ce qui fait que les femmes peuvent pas aller travailler, puis d'un autre côté, dire qu'ils sont un fardeau. Je veux dire, ces gens-là veulent contribuer. Ces enfants-là devraient être francisés puis être intégrés dans les milieux québécois le plus vite possible pour intégrer notre société. Les femmes devraient pouvoir aller travailler dans les comme préposés aux bénéficiaires dans les réseaux qui veulent travailler pour être sûr que ces gens-là puissent participer. C'est ça qu'ils veulent. Moi, j'ai représenté ces gens-là pendant des années et des avis de cotisation là, fournis là, à 40, 50 000 $ parce que madame, monsieur travaillait deux jobs. J'en ai vu des dizaines, j'en ai vu des centaines. Donc, faut aussi être fair et leur dire, je comprends là, l'enjeu qu'il y a un fardeau, mais permettez-leur de contribuer. Permettez-leur de faire leur rôle, puis vous allez voir qu'on va s'en sortir pas mal mieux.
Vous dites qu'il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile que nous avons au Québec. Je regarde aux États-Unis, on dit que le président Biden pourrait, en tout cas, c'est une question de jour, semble-t-il, décréter une politique qui fera en sorte que si vous mettez le pied aux États-Unis et que vous prétendez être un demandeur d'asile, on va vous retourner l'autre bord de la clôture. Autrement dit, est-ce que les nations dans le monde sont pas en train d'adopter des mesures de plus en plus sévères pour limiter ces mouvements de population?
C'est une possibilité pour les États-Unis. Moi, je pense que notre régime juridique et les engagements qu'on a pris ne nous permettront pas de faire ça. Puis tant mieux, là, parce qu'à un moment donné, retourner quelqu'un vers la guerre et la persécution, c'est quand même quelque chose qui est assez dramatique et drastique. Faut se rappeler que pour 2023, là, c'est 72% des demandeurs d'asile qui ont été acceptés par la Commission sur des normes internationales. On est rapide à dire qu'il y a des faux demandeurs, que les chiffres explosent, etc. Mais finalement, là, près du trois quarts sont acceptés par un tribunal indépendant parce qu'ils avaient une crainte fondée, parce que leur vie était menacée dans leur pays d'origine. Donc, faisons attention avant de dire que tout ça, c'est faux et qu'il faut mettre des frontières et des barrières. Oui, on a un défi d'intégration. Je le reconnais. C'est très difficile. Et il y a des provinces qui ne font pas leur part. Le Québec fait plus que sa part. Mais de là à dire qu'il faut renvoyer du monde vers la persécution, vers la guerre, vers des endroits où leur vie est menacée, je pense que là, il ne faudrait pas dépasser cette ligne.
Non, je comprends. Mais en même temps, vous me dites 72%, je pourrais vous dire qu'il y a 30% donc qui sont rejetés.
Tout à fait. Et il y a des mesures exécutoires pour ces gens-là qui sont passés à travers le processus. Ils vont être rencontrés par les services frontaliers, puis les mesures d'exécution de renvoi vont se faire. C'est comme ça que notre système fonctionne. Mais pour les 30% ou les quelques 28% qui ne respectent pas les critères, on ne devrait pas pour autant blâmer les 72% qui, eux, se qualifient.
Non, non, ça, je comprends.
En disant qu'on met tout le monde à la porte.
Là. OK. Là, je fais appel à votre expérience là, comme avocat là, dans ces dossiers d'immigration. Je regarde la position du gouvernement du Québec, là, qui, je le disais au début, parlait de crise financière. On comprend, il demande 1 milliard au fédéral. La crise des services, parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires en éducation, par exemple. Et là où ça a glissé, c'est la crise identitaire. J'ai beaucoup de courriels de gens qui m'expliquent leur situation, des Ukrainiens, par exemple, qui sont venus au moment de l'invasion russe, puis qui ont débarqué au Québec dans d'autres circonstances et qui disent qu'actuellement, de travailler, de se trouver un logement, puis d'apprendre le français, puis d'avoir un niveau de français qui est, je dirais, satisfaisant, c'est impossible dans les délais qui sont prévus. C'est quoi votre lecture de ce qui se passe?
Ben, il y a des scénarios, puis il y a des histoires comme ça, puis c'est vrai, là, puis revenons sur les chiffres, là, les demandeurs d'asile, c'est à peu près 1,8% de la population du Québec, puis ça représente 0,25% du portefeuille global du Québec. Donc, avant de dire qu'on est à un point de rupture puis que l'identité de la nation est mise à mal par moins de 2%, là, je pense qu'il faut relativiser. Cela dit, il y a des enjeux, il y a des problèmes. Les scénarios que vous me dites, là, puis l'accès à la francisation difficile, il y a eu plein d'articles. Francisation Québec ne fonctionne pas. Les gens s'inscrivent, lèvent la main, ils se font envoyer sur des cours dans lesquels ils peuvent pas assister, dans des niveaux pour lesquels c'est pas le bon niveau. Il y a plein d'enjeux et effectivement qu'il faut améliorer. Puis on ne pourra pas faire tout en même temps, puis on a des enjeux, puis si on diminuait, puis si on avait un accord de répartition équitable avec les Maritimes, avec l'Ouest canadien, on pourrait chacun avoir notre part de manière un peu plus raisonnable. Ça, c'est ce qu'on demande à la CAQ. Hier, j'ai demandé à la CAQ de réouvrir l'accord Canada-Québec dans une motion à l'Assemblée nationale pour qu'on réaffirme les droits du Québec, pour qu'on vienne chercher les droits au Québec en immigration. Ils ont bloqué la motion, ils refusent de le faire. Alors, d'un côté, on dit que Ottawa fait ABC, mais quand c'est le temps de trouver des solutions, puis quand c'est le temps d'aller négocier, puis quand c'est le temps d'invoquer nos moyens légaux, ils le font pas. Alors là, ça, c'est un problème. Ils sont pas sérieux dans leur volonté.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Guillaume Clich-Rivard est le député de Québec solidaire pour Saint-Henri-Sainte-Anne. Maintenant, dans le Journal de Montréal, on nous parle ce matin d'une résidence pour personnes âgées qui a fait l'objet d'une enquête concernant des patients, des bénéficiaires qui se sont retrouvés dans cette résidence en pleine canicule avec un système de chauffage qui marchait. On parle qu'on a dû évacuer 5 usagers d'urgence et un homme a également été retrouvé mort dans la chambre en question, ce qui pose énormément de questions justement sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Le propriétaire de cette résidence qui s'appelle la résidence Ville-Marie, qui est aussi propriétaire du groupe Excel Soins, Christian Archambault est avec nous. Monsieur Archambault, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été transportés d'urgence? On est en 2020, on est au mois de juin, en pleine canicule, en raison de leur état à l'intérieur de votre résidence.
Donc, il est arrivé deux événements. Chaleur, comme on le sait, juillet 2020 est un mois qui a fracassé des records de chaleur au Québec. Et il faut séparer les deux événements. Les 5 personnes auxquelles vous faites référence ont été évacuées le 9 juillet. À titre préventif, il n'y avait personne qui n'avait de signes et symptômes, mais la décision avait été prise par le SUS de l'Ouest de l'île de Montréal de les relocaliser parce que 17 de nos 23 usagers avaient des airs climatisés dans leur chambre que nous avions fournis et ces 5 personnes-là n'en avaient pas. Et il y a eu une décision qui a été prise de les relocaliser vers l'hôpital Sainte-Anne à l'époque. Donc ça, ce sont les 5 personnes auxquelles vous faites référence qui avaient été relocalisées le 9 juillet. Encore une fois, à titre préventif, il n'y avait personne qui n'avait de signes et symptômes. Les autres événements auxquels vous faites référence, et d'une part...
Mais je veux juste bien comprendre, parce que ce que je lis dans le rapport là, qui a été fait par le mandataire du CIS, c'est que la température a atteint 48 degrés Celsius. Température ressentie à l'intérieur, c'est vrai ou faux?
48 degrés, honnêtement, je ne crois pas qu'on était là. La température, on le voit dans le rapport, était à 31 degrés Celsius. Avec le facteur humidex, on atteint généralement, quand on fait le calcul, 37-38. Je ne peux pas commenter sur le 48. Mais de façon générale, au Québec, il faisait environ 31 degrés Celsius en fin de soirée, dans la nuit du 23 au 24 juin.
Vous me parlez des climatiseurs. Est-ce que les climatiseurs fonctionnaient? Parce qu'on peut en avoir, puis ils ne fonctionnent pas.
Encore une fois, le journaliste a rapporté qu'il y en avait un de nos climatiseurs qui ne fonctionnait pas. Elle ne parle pas des 15 climatiseurs qui formaient les 5 îlots à fraîcheur que nous avions dans la résidence. Donc, 5 endroits, la salle à manger, la salle d'activité, l'entrée là, également, donc notre salon à l'entrée, et également des salons sur chacun des étages qui formaient nos îlots fraîcheur. Donc, à l'intérieur de nos plans chaleur, ce sont les endroits où, surtout durant la journée, nos résidents vont passer de façon régulière dans le but de les rafraîchir durant la journée.
OK, mais M. Archambault, là, moi, j'invente pas ça, là, puis je vais prendre ça point par point, OK? Ce qu'on nous dit, c'est que l'enquête a permis de démontrer qu'il y avait des chambres sales, accumulation de déchets, que des résidents portaient les mêmes vêtements sales depuis plusieurs jours, que le système de chauffage fonctionnait, que des résidents portaient des bottes et un manteau, puis qu'on leur a servi de la soupe chaude. Est-ce que c'est vrai?
Bon. les deux éléments que je tiens à apporter là-dessus. D'une part, les manquements que vous mentionnez par rapport à la qualité, ils sont dans un tableau qui recoupe 3 années de partenariat avec le CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal. Et durant ces 3 années-là, chaque fois qu'on nous rapportait des éléments, bien évidemment, on réagit, on les règle. Et d'ailleurs, le CIUSSS de l'Ouest de Montréal était en partenariat avec nous, était satisfait. On a eu un premier contrat de 20 places en 2018, auquel on ajoute 10 places en 2019 et auxquelles 8 places supplémentaires sont offertes en 2020, 2 mois avant les événements de canicule. Donc, il est difficile de prétendre que notre résidence ne réglait pas les problèmes au fur et à mesure à la satisfaction du CIUSSS.
Okay, mais
on voyait dans la relation. D'autre part, quand vous me parlez, par exemple, de soupe chaude, je vous le dis d'emblée, pour nous, c'était fondamental de pouvoir comprendre les événements qui sont arrivés. Vous avez raison, ce n'était pas approprié. Et pour nous, c'est la raison pour laquelle on a été si choqués que ça nous prenne près de 2 années à obtenir le rapport d'enquête du CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal. Il a fallu s'adresser au tribunal d'accès à l'information pour pouvoir en obtenir une copie et pour pouvoir en tirer les conclusions.
OK, M. Archambault, avec respect, là, je vous entends, puis j'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème. Là. Des problèmes mineurs. Moi, quand je vois ça ce matin, je me dis, dans cette résidence, on a parqué des vieux avec un système de chauffage qui marche en pleine canicule et les conditions de vie, et c'était pas acceptable. C'est ça que je comprends de ce rapport-là.
Monsieur Arcan, d'une part, le système de chauffage, et c'est dans l'article du journal, dans les faits, une seule résidente du deuxième étage sera déplacée. Une de mes chambres avait un thermostat qui était défectueux. Chaque chambre possède son propre thermostat, son propre système de chauffage, et il est tout à fait inexact de prétendre qu'il y avait plus qu'une chambre, et d'ailleurs, c'est dans l'article, dans les faits, une seule résidente du deuxième étage sera déplacée. Monsieur Arcan, je réagis avec passion parce que vous défendez les droits des personnes vulnérables et moi j'ai fait ma mission de m'occuper des personnes qui sont vulnérables, de le faire avec une immense équipe qui s'est mobilisée. On le voit dans le rapport, durant la nuit, mon équipe est dans l'action, les tournées sont faites, notre plan chaleur est déployé, mon personnel cadre se déplace dans la résidence et d'ailleurs leur performance dans le rapport, quand on le lit, elle est saluée par l'enquêteur et le centre d'intervention. J'ai mon RSI qui se déplace à minuit, j'ai ma personne de maintenance qui se déplace vers 2h du matin pour venir justement mettre le disjoncteur de la fameuse chambre en question à off. C'était inacceptable d'avoir une chambre qui chauffait, mais en même temps, c'est un événement fortuit, un bris mécanique. On l'a adressé le plus rapidement possible. Et ensuite de ça, suite au décès, bien, j'ai mon directeur général qui se rend à la résidence à 5h et j'ai eu ensuite de ça mon équipe de gestion des risques qui, dès le 24, se rend à la résidence, enquête sur les événements, rédige le rapport qui est remis au CIUSSS et pour lequel on ne recevra aucun retour.
Faites-vous encore affaire avec le CIUSSS?
Oui.
Vous avez combien de bénéficiaires qui vous sont envoyés par le CIUSSS?
Bien, présentement, on a un projet en santé mentale de 8 lits dans une autre de nos résidences, un projet qui va très bien. Je suis très à l'aise de vous dire que ça va très bien parce qu'à la lumière de ce qui était arrivé, on provoque maintenant des rencontres pour s'assurer de la qualité des soins. Au début, on le faisait parce que notre projet a commencé en 2020, là, en même temps. Le projet, on a provoqué des rencontres à toutes les 2 semaines au début, maintenant au mois, pour s'assurer justement en partenariat avec le CIUSSS de s'assurer que la prestation de service elle est bonne, que tous les aspects sont adressés. Ça fait partie de l'amélioration continue qu'on doit avoir.
À la résidence Ville-Marie, il y a combien de bénéficiaires actuellement?
Une cinquantaine.
Une cinquantaine. Est-ce qu'ils ont tous l'air climatisé?
Pas présentement. Il s'agit d'une RPA de niveau 3, donc privée. Donc les gens, c'est un choix personnel d'avoir un air climatisé.
OK. Mais pas tout le monde qui a nécessairement les moyens. Ça veut dire que comme on a des changements climatiques, comme on va se retrouver encore cet été en juin, juillet ou probablement avec des périodes de température élevée, ils vont faire chaud dans leur chambre.
Mais, M. Arcan, il faut comprendre qu'on a nos îlots de fraîcheur, donc une immense salle d'activité.
Tant que vous voulez, là, dans une chambre, là, ils vont crever dans leur chambre.
il va faire chaud dans leur chambre. Et encore une fois, je suis très sympathique à ça, mais M. Arcan, vous nous imposez un standard. La plupart des chambres...
Non, j'impose pas de standard.
Ne sont
non.
pas climatisées.
Non, ben, non, mais... je vous impose pas un standard. Moi, là, ma job, c'est de vous poser des questions pour essayer de comprendre quel est le sort de ces personnes-là. Et je parle pas de vous, là, mais j'ai vu des propriétaires de résidences être minimalement négligents, puis dans d'autres cas, qui abusent. Ce que je constate, c'est une clientèle qui est vulnérable, qui a pas de syndicat, qui peut pas trop parler, puis qui peut pas vraiment se défendre. Fait que moi, je veux juste savoir si cet été, ils vont crever dans leur chambre ou pas.
Monsieur Arcan, on crée des îlots de fraîcheur à l'intérieur de la résidence pour s'assurer justement du confort et de la sécurité de nos résidents. Ça fait partie des meilleures pratiques au Québec. On le voit autant dans les hôpitaux que dans les CHSLD. Il y a encore 50% des chambres de CHSLD, de la clientèle beaucoup plus vulnérable que notre clientèle qui est encore non climatisée. Et encore une fois, tout le monde...
C'est pas un modèle qu'il faut suivre. Là. C'est pas un exemple...
Je suis d'accord avec vous et c'est la raison pour laquelle on développe encore une fois au mieux notre offre de service par rapport à ça. Mais on se ramasse au Québec avec un grand défi, celui d'un côté, vous nous amenez aux meilleures aspirations et c'est ce qu'il faut. Il faut être passionné des gens vulnérables, mais en même temps, il faut associer ça aux moyens financiers qu'on peut avoir pour être capable de l'offrir. Okay. Et ça, c'est l'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver.
Merci, M. Archambault. Bonne journée.
Je vous remercie.
Au revoir. Christian Archambault est le propriétaire de cette résidence Ville-Marie. Vous pourrez lire le détail dans le Journal de Montréal. Et puis, toujours dans le Journal de Montréal, ce matin, on nous parle des créances du groupe de Normand Laprise. On sait qu'il y a des mises à pied qui avaient été annoncées, fermeture des brasseries de thé. Et on parle maintenant de dettes qui dépassent les 7 millions de dollars, près d'une centaine de créanciers. Sophie Dormeau est avec nous. Elle est l'avocate au dossier et aussi la conjointe du chef Normand Laprise. Madame Dormeau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, est-ce que les chiffres sont vrais, là, que les créances sont autour de 7 millions là, pour les restos qui ont fermé?
Non, les chiffres sont inexacts. Ceci étant dit, on parle de beaucoup d'argent quand même. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que vous voulez qu'on entre dans le détail des clients qui sont venus, mais...
Si vous me dites que ce n'est pas 7 millions, c'est combien?
Non. Il y a 5 millions de dettes, mais là-dessus, il y a environ 3,5 millions de dollars qui sont dus aux associés du groupe. Ils sont 4 associés.
OK. Puis la centaine de créanciers dont on parle?
Il y a des créanciers. Là, j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux.
Non, mais en gros.
Le détail des noms. Mais en gros, là, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous le savez, M. Laprise, depuis le début de sa carrière, il met de l'avant les producteurs, les petits fournisseurs. Tous ces gens-là ont été payés. Donc, tous les producteurs de fruits, de légumes, etc., ces gens-là ont été payés. Il reste des gens à qui des sommes sont dues. Mais vous le savez, quand des entreprises font faillite, c'est pas parce que ça va bien, là. La faillite vise les brasseries de thé. C'était des structures corporatives indépendantes qui n'ont pas de lien juridique avec le restaurant Toki qui, lui, va bien malgré les circonstances difficiles actuellement.
OK, je veux en parler du Toki dans quelques instants, mais je vous demanderai pas de l'histoire complète, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends la pandémie, je comprends l'augmentation des coûts, là, mais en gros, comment vous expliquez l'échec des brasseries de thé?
Je vous dirais une tempête parfaite. En 2018, Normand et Christine, donc les propriétaires du restaurant Toki, s'associent avec deux autres associés qui vont apporter un apport financier avec un plan d'affaires déterminé, à savoir, on ouvre 4 brasseries au Québec. À l'époque, on avait déjà Quartier des spectacles, Brasserie T à 10-30, et on doit en ouvrir d'autres pour pouvoir générer un volume d'activité à la cuisine de production qui est sur Beaumont, donc devant laquelle on avait fait Restaurant Beaumont, qui est devenu par la suite une brasserie thé. Et c'était ça le plan d'affaires. Ça nous prend 4 brasseries pour générer du volume pour la cuisine de production. On a un contrôle sur la qualité. On envoie ça aux différentes entités et la balle continue de rouler. Malheureusement, en 2018, la pandémie est arrivée. Donc, non seulement il n'y avait plus le nombre de brasseries requis pour pouvoir mettre de l'avant le plan d'affaires, mais au surplus, c'était fermé. Des dettes ont été accumulées, des prêts ont été souscrits auprès des entités qui les offraient. Mais par la suite, la reprise, celle qui a été difficile pour tous les gens qui font partie du milieu de la restauration, je dirais, fine ou de niche au Québec, ont tous été visés par non seulement on essaie de repartir, mais en plus, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a des prêts à rembourser. Tout est devenu tellement difficile que le plan qui avait été concocté en 2018 n'a pas pu se réaliser. Puis malheureusement, à la fin de 2023, il a fallu prendre la décision extrêmement difficile de dire, bon, est-ce qu'on continue de s'enfoncer ou est-ce qu'on arrête ça maintenant puis qu'on essaie de repartir?
Est-ce que le toqué est menacé d'une façon ou une autre?
Non, c'est dommage et je suis déçue de la couverture parce que c'est dommage que ce soit le restaurant toqué qui soit au cœur de la publication des nouvelles. Le restaurant toqué va bien. Le restaurant toqué, on continue de le positionner sur la scène internationale. On est dans la continuité. On va finalement pouvoir éventuellement célébrer ces 30 ans d'existence à Montréal. On a un projet pour la semaine de relâche pour que les jeunes puissent venir le midi avec des menus à taux réduit. Je veux dire, Toki va bien, Toki est vivant, Toki va continuer d'occuper la place qu'il occupe sur la scène de la gastronomie Montréal, québécoise, canadienne et internationale.
Est-ce que ça veut dire que pour Normand Laprise et sa partenaire, le Toki va être l'unique propriété? Il n'est pas question d'une nouvelle aventure avec un autre modèle de restauration?
Bon, le restaurant Toki, c'est la propriété de Christine Lamarché Normand Laprise. Donc, ça, effectivement, c'est ce qui va continuer. Vous me parlez de Normand Laprise et de sa partenaire.
Oui.
Je comprends que vous faites référence à Christine Lamarche.
Oui, oui.
Sa partenaire d'affaires. Ils ont un plan pour continuer de faire valoir l'immense visibilité que Toki peut donner à la gastronomie culinaire montréalaise, québécoise, etc. Ça, ce n'est pas remis en cause. Et c'est sûr qu'une couverture médiatique comme celle d'aujourd'hui, c'est difficile. C'est très difficile. C'est dur, ça n'aide pas, mais a priori, je pense que les gens vont être au rendez-vous.
OK, mais ma question, c'était, est-ce qu'après l'échec de Brasserie T, on pense à un autre modèle, d'avoir le toqué, bien sûr, mais de démarrer une autre chaîne ou de démarrer d'autres types de restaurants?
Je comprends mieux votre question. Je pense que pour le moment, les efforts vont être strictement mis sur le restaurant toqué, qui est la couche de restauration, en fait, qui était au cœur de leur expertise. Les brasseries, malheureusement, c'est pas parce que c'était pas bon puis qu'il y avait pas de gens. C'est comme je vous disais, il y a eu une tempête parfaite. Donc, pour le moment, d'autres brasseries, ça fait pas partie des plans.
Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.
Au revoir, bonne journée.
Merci de nous avoir donné l'occasion de s'adresser à vos auditeurs.
Sophie Dormeau est l'avocate au dossier et est aussi la conjointe de Normand Laprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Là, on s'en va complètement ailleurs, un autre univers. C'est une histoire assez incroyable. Une multimillionnaire qui est née au Québec, Louise Blouin, qui a perdu son domaine luxueux dans les Hamptons, c'est en banlieue de New York, dans le cadre d'une procédure de faillite. Il y avait des dettes qui totalisaient plus d'une quarantaine de millions de dollars. Et vous allez voir que son histoire est assez intéressante. Richard Châteauvert est avec nous. Bonjour, Richard.
Bonjour, Paul.
Alors, qui est d'abord Louise Blouin?
Louise Blouin est née à Dorval. Elle a fait fortune avec son deuxième mari dans les petites annonces, notamment avec Auto Hebdo. Sa fortune a été évaluée il y a 20 ans à 425 millions de dollars canadiens. En 1998, son mari et elle ont acheté le domaine des Hamptons, qu'elle a nommé La Dune. Le domaine comprend deux manoirs qui comptent au total 19 chambres à coucher et 20 salles de bain, un court de tennis et deux piscines. Peu de temps après, Louise Blouin a divorcé et débuté sa carrière solo. Elle souhaitait être un pilier du monde de l'art international. Elle a acheté une série de magazines d'art. En 2016, son nom a été cité dans les Panama Papers. Madame Blouin avait créé 5 sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. Elle a déclaré au Toronto Star que ce n'était pas pour se soustraire à l'impôt, mais pour faciliter ses transactions immobilières qu'elle considère comme un hobby.
Et là, elle s'est représentée elle-même devant le tribunal, donc à Longue-Allune. Pas d'avocat, c'est elle qui plaidait sa cause.
Tout à fait. Ça, c'était la semaine dernière. Louise Blouin, qui vit aujourd'hui en Suisse avec son troisième mari, a affirmé ne pas avoir les moyens de se payer un avocat. La Dune a été cédée dans une vente aux enchères pour 79 millions de dollars américains. 41% de moins que le prix que Mme Blouin souhaitait obtenir au départ. Devant le tribunal, Mme Blouin a tenté de faire annuler la vente, affirmant que la vente n'était pas transparente, qu'elle n'avait pas reçu, qu'elle avait reçu des offres de plus de 100 millions, mais le juge n'a pas tenu compte de ses arguments. Il a conclu que tout était conforme.
Bon, là, on vient de parler de sa maison, son domaine dans les Hamptons, mais elle est réputée également pour avoir laissé derrière elle des créanciers, des fournisseurs impayés à New York, bien sûr, mais aussi au Québec.
Oui, ici à New York, dans les années 2010, de nombreux employés de ces magazines d'art n'ont pas été payés. Au moins deux d'entre eux l'ont poursuivi. La société qui imprimait ces magazines l'a poursuivi. Au Québec, selon le Journal de Montréal, elle a été poursuivie par une banque, un courtier immobilier, un cabinet d'avocats, un marchand de peinture et un architecte. En 2016, Louise Blouin a convaincu une femme de Westmount de lui vendre son manoir victorien de 10 chambres à coucher pour 15,5 millions de dollars canadiens, mais elle ne s'est pas présentée chez le notaire pour conclure l'achat. L'affaire s'est retrouvée devant la Cour supérieure et le juge Sylvain Lucier a déclaré au sujet de Mme Blouin, et je cite, « Ce sont ses arguments, ses désirs, ses caprices, ses goûts de grandeur qui passent avant toute considération pour ses engagements. » Au New York Times, Mme Blouin a dit « On ne peut pas juger une personne parce qu'elle a eu un problème dans sa vie. Je suis sûr que Steve Jobs n'a pas eu un parcours parfait. » Puis elle a conclu « Je suis une des femmes qui ont le mieux réussi dans le monde. » Mme Blouin a déclaré au New York Times qu'il va écrire ses mémoires pour prouver que ses détracteurs ont tort. Le titre « Obsédé ».
Ça résume très bien. Merci beaucoup. Richard Châteauvert qui nous parlait en direct de New York.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.